m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jeanne, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Et bonjour chers amis, bienvenue sur Radio Courtoisie. Effectivement, vous pouvez d'ailleurs nous écouter sur YouTube, vous pouvez nous écouter sur X, vous pouvez bien sûr nous écouter sur les ondes hertziennes. Vous êtes d'ailleurs 1 million à nous écouter sur les ondes hertziennes chaque semaine. Merci beaucoup d'être fidèles au rendez-vous. Vous pouvez aussi nous appeler attention, je le fais sans filet, au 01 40 66 87 51. Non, pas du tout, je me suis trompé. 01 46 51 00 85. Rien à voir. Voilà. 0. Mais donc là, c'est le bon numéro de téléphone, ou nous écrire à courtoisie@rc.fr et bien sûr, nous interagirons avec vous et nos invités. Nos invités, justement, j'ai d'abord le plaisir de recevoir Georges Kuzmanovic, rédacteur en chef de Fréquence Populaire. Ensuite, il y aura Olivier Vial du CERU et qui vient d'écrire un livre, La guerre contre les espèces invasives. Rassurez-vous, il ne parle que de frelons et de crabes bleu. Et enfin, Pierre-Marie Sève de l'Institut pour la Justice viendra nous parler du travail obligatoire dans la prison. Eh bien, d'une manière générale, tout va très mal et d'une manière générale, à peu près rien ne va s'arranger. Et donc, on va commencer tout de suite avec Georges Kuzmanovic qui, avec Fréquence Populaire, nous donne régulièrement des analyses géopolitiques tout à fait intéressantes et évidemment un peu décalées par rapport à ce que vous entendez sur BFM TV. Bonjour Georges Kuzmanovic.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Voilà. Juste avant qu'on parle du sujet, évidemment, qui est le sujet d'actualité, c'est-à-dire l'Iran, Israël, les États-Unis. Vous avez une particularité qui finit par ne plus être si rare que ça. Vous étiez de gauche et vous êtes devenu plus à droite.
Ah non, je suis toujours de gauche.
Alors, vous êtes de gauche, mais vous n'êtes pas comme les gauchistes aiment qu'on soit de gauche.
Et je vous rappellerai qu'il y a un célèbre ouvrage de Lénine qui s'appelle « Le gauchisme, maladie infantile du communisme ». Donc ça date depuis longtemps, les affrontements entre une certaine gauche et les gauchistes. Non, moi, je suis de la gauche républicaine, je n'ai pas changé. Alors peut-être que le curseur de la gauche a changé. Moi, je fais partie de cette vieille gauche et tradition française, on va faire simple, qui est pour le maintien des services publics, pour que ceux qui travaillent, d'abord, aient accès au travail, comme le Conseil constitutionnel a l'air d'oublier cette partie du préambule de la Constitution, parce qu'on a droit à un travail dans notre pays, et que ceux qui aient accès à un travail, et que quand on travaille, on ait un salaire décent, qu'on puisse vivre avec sa famille, un accès à un hôpital public qui fonctionne, et une école républicaine qui fonctionne. Voilà, c'est ça le cœur de la gauche, la dignité au travail et l'accès aux services publics. Les aspects woke, le communautarisme, tout ça, c'est de la gauche américaine qui n'a à peu près rien à voir avec la tradition française.
Et qui pourtant est devenu, grâce à LFI, entre autres, sans voilà. Parler du PS... Et
donc on devient très vite de droite, fasciste, tout ce que vous voulez. Enfin bon. Mais voilà. Imaginez que pour ces gens-là, bon, des gens comme, je ne sais pas, je suis d'origine yougoslave par mon père, mais Tito, Fidel Castro, tout ça sont des gens d'extrême droite. Ah bah, mais ils aiment... Patria o muerte venceremos, c'est la patrie ou la mort nous vaincrons, c'est Cuba. L'uniforme, se lever quand le professeur rentre, les élèves sont en uniforme, méritocratie, tout ça c'est horrible, c'est de droite. Mais bon, c'est fait, un pays très à gauche, il me semble, Cuba, bah, encore, mais, hein, les États-Unis n'aiment pas beaucoup.
En tout cas, les Donald Trump a l'air de considérer voilà, qu'ils sont assez à gauche.
L'horreur communiste. Ouais. Bon, mais vous voyez, donc on a différentes formes de gauche.
Mais vous faites bien de le souligner, j'en parlais avec des gens de la Fondation du Rassemblement National qui me disaient qu'il y a une chose que les gens de gauche d'Europe de l'Est ne comprennent pas, c'est la manière dont on n'est pas patriote, par exemple. Et pour eux, le patriotisme est absolument normal et n'importe quel parti communiste, stalinien, trotskiste, léniniste, une fois qu'on a dépassé l'Allemagne, tous ces gens-là sont profondément patriotes et ils n'imaginent pas qu'on ne puisse ne pas aimer son pays, ne pas aimer sa nation.
Exactement. D'ailleurs, une petite anecdote pour vos auditeurs. Quand je vivais à Moscou, on avait des amis qui venaient de notre milieu social, des anciens camarades de Sciences Po, d'École normale supérieure, plutôt de gauche, Et ils étaient très surpris de tomber sur des Russes qui avaient une admiration absolument et totalement débordante pour la France. Sa culture, ses peintres, ses écrivains, son histoire, sa musique, ses hommes politiques. Journalistes, ils n'en parlaient pas trop. De Gaulle, Napoléon, une passion. Hein. Napoléon a quand même brûlé. Enfin, il est à Moscou. Hein, personne n'y est arrivé. Bon, une passion telle que les Français se sentaient un peu gênés de ce débordement patriotique envers leur propre pays qu'eux-mêmes n'étaient pas capables de manifester.
Alors,
ce qui n'empêche pas les Russes d'être de droite, enfin, plus capitaliste, plus pour le partage, plus religieux, moins religieux.
Oui, et puis on peut même imaginer une troisième voie où on est, ce ne sont ni les trusts, ni les soviets, ni le fascisme, ni
le communisme. Vous noterez dans les questions géopolitiques qui nous concernent actuellement, beaucoup d'Américains qui ne sont pas d'accord les uns avec les autres sont quand même patriotes. Les Israéliens sont patriotes, les Iraniens sont patriotes, mais ils ne sont pas du tout d'accord les uns avec les autres, les Russes. C'est très bizarre qu'on ait tel problème avec ce concept en France.
De patriotisme. Alors justement, il y a ce concept de patriotisme. Et Donald Trump s'est fait élire sur la promesse, en fait, de rendre l'Amérique grande à nouveau, « Make America Great Again ». Et le courant MAGA a, en 2016 et en 2020, insisté sur la nécessité d'un recentrage de l'Amérique. Il y a quelques mois, la nouvelle doctrine stratégique des États-Unis insistait aussi sur ce recentrage sur l'hémisphère. Alors, c'est un recentrage qui signifie, en gros, que les États-Unis ont un droit de regard et même de possession du pôle Nord au pôle Sud quand il s'agit du continent américain, hein, du Canada à la Terre de Feu, et pourquoi pas le Groenland tant qu'on y est, et qu'ils ont malgré tout une façon un peu évidemment impérialiste de concevoir l'Europe comme étant une espèce de dépendance. Et la promesse quand même initiale était « on va rester chez nous, il y en a marre des guerres ». J.D. Vance était très opposé, J.D. Vance était très opposé à cette idée de guerre, lui-même ayant combattu, avait l'impression d'avoir combattu pour un complexe militaro-industriel, plus intéressé par les profits que ce complexe est capable de générer que par le véritable intérêt des États-Unis. Et on se retrouve avec une petite opération militaire sympathique, tiens, on va aller enlever un dictateur sud-américain, et voilà, on réussit à tuer quelques dizaines de Vénézuéliens au passage, en expliquant que certains étaient cubains, ce qui était peut-être vrai, mais pas un soldat américain ne meurt, ça va bien. Et là, par contre, on se lance une opération de bombardement à grande échelle de tout un pays, l'Iran, sans qu'on comprenne très très bien quel est l'intérêt des États-Unis, en quoi l'Iran fait-elle vraiment partie de l'hémisphère américain, avec des conséquences en fait de politique intérieure et de politique internationale qui sont tout à fait surprenantes par rapport au discours de Donald Trump.
Alors vous aurez noté que J.D. Vance est particulièrement silencieux ces 12 derniers jours.
Oui.
Parce que maintenant nous avons atteint la guerre israélo-américaine contre l'Iran dure depuis 12 jours. 12 jours pourquoi ? Parce qu'en juin il y avait déjà eu la guerre de 12 jours.
Oui.
Bon, donc J.D. Vance est assez silencieux et doit être bien embêté. D'ailleurs, la galaxie MAGA est furieuse. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, j'aime beaucoup ce pays aussi. Je le suis énormément. Et les MAGA sont vent debout. C'est-à-dire, on a maintenant plusieurs influenceurs MAGA notoires, y compris vraiment, vraiment, vraiment à l'extrême droite. Hein. Des gens pour qui Zemmour serait un gauchiste, littéralement. Je plaisante un petit peu, mais on n'en est pas loin, qui appelle à voter démocrate pour punir Donald Trump de les avoir trahis et d'avoir trahi ce recentrage sur les besoins des Américains. Mais d'ailleurs, c'est 70% des Américains qui étaient contre toute entrée en guerre en Iran. Des sondages avant l'entrée en guerre en Iran, 90% chez les MAGA. Donc évidemment, Donald Trump est un peu décalé par rapport non seulement à sa base, à lui, mais aux Américains en général. Pourquoi ? Parce que les Américains, depuis la phase d'hégémonie américaine sur le monde, depuis 1991, effondrement de l'URSS, ont mené un nombre innombrable de guerres, toutes perdues, n'ayant abouti à pas grand-chose géopolitiquement, ayant beaucoup discrédité l'Amérique et les Américains dans le reste du monde, ayant coûté aux contribuables américains des fortunes colossales. D'ailleurs, c'est bien simple, la dette extérieure américaine est majoritairement dû à ces 800 bases militaires dans le monde entier, ces centaines de milliers de soldats qui tournent en continu sur ses 800 bases, ses 7 flottes qui font le tour du monde en permanence, toutes ces interventions militaires qui coûtent une fortune, là, on en est déjà à 15 milliards au moins de dépenser, rien qu'en munitions sur l'Iran. Et il y avait une sorte de promesse, on en a fini avec ça. On va arrêter parce que ça ne mène à rien. Or, évidemment, d'entendre Donald Trump dire « Forever War », donc il fait un tweet sur son réseau True Social, « Forever War »,« Guerre infinie », c'était très exactement ce contre quoi il est allé. On se rappelle que la guerre
d'Afghanistan... C'était sa promesse.
C'était sa promesse de campagne. Il a été élu, a priori, sur ça.
Et c'est la pire étant la guerre d'Afghanistan. 20 ans de guerre, on peut en parler. L'OTAN, j'y étais pendant 8 mois, en tant qu'officier de l'armée française, dans le cadre de l'OTAN, 2001-2021, renverser les talibans pour que les talibans prennent le pouvoir à la fin.
On a dépensé effectivement des dizaines de milliards de dollars pour réinstaller les talibans sur place.
Vous êtes sympathique.
Des centaines de milliards de dollars.
Vous êtes sympathique. On a passé le trion.
Ah oui, oui les 1000 milliards. Donc voilà, on a dépassé les 1000 milliards.
1000 milliards, quand même un paquet de morts. Tout ça pourquoi en fait bon. Alors ça, c'est une chose. Maintenant, Donald Trump subit plusieurs pressions. Il y a l'État profond américain qui n'a pas disparu, les néoconservateurs, et puis y compris sa majorité au Sénat et au Congrès, donc au Capitol Hill à Washington, sont majoritairement des néoconservateurs. Pour la bonne raison qu'ils sont doublement financés, quasiment pour la plus grande partie d'entre eux, par le complexe militaro-industriel, qui lui, comme vous l'avez dit, a tout à fait intérêt à ce qu'il y ait des guerres, peu importe qu'elles soient gagnées, perdues, que... ça n'a aucune importance. Par exemple, ce qu'a dit Donald Trump en septembre dernier lors de son allocution devant l'Assemblée générale de l'ONU, l'aura parfaitement convenu. Bon, plus d'aide directe à l'Ukraine, par contre, on vend des armes aux Européens qui les redonnent aux Ukrainiens, puis « good luck to all », c'est la phrase de « bonne chance à tous ». Je m'en fiche,
je m'en lave les mains,
mais achetez-nous des armes. Bon. Donc il y a une pression très très forte, et puis il y a une pression... certes, Donald Trump et Jed Evans voulaient recentrer l'Amérique sur l'Amérique, enfin les États-Unis sur l'Amérique du Nord et du Sud, éventuellement prendre le Groenland, ce qui je pensais toujours dans les tuyaux. Mais il y a quand même ce destin impérial qui les titille, cette la nation utile, hein, comme le disait Barack Obama, le gentil Barack Obama qui a fait 7 régime change et un nombre incalculable d'assassinats avec des drones. Donc la nation utile, ça veut dire que les autres ne sont pas vraiment utiles.
Vous pouvez aussi préciser qu'il a été récompensé par un prix Nobel de la paix en remerciement de ces dizaines de milliers de morts.
Oui, mais qui... avant, ça, c'est bien. Il a eu un prix Nobel. C'est un gars tellement bien, on lui a donné le prix Nobel pour le féliciter de ce qu'il n'a pas encore fait. Il a prouvé après que... bon. Il y a eu beaucoup de dessins humoristiques aux États-Unis à ce sujet. Donc on a un État profond aux États-Unis qui est quand même toujours intéressé par cet aspect impérial. Et même peut-être Donald Trump. Pourquoi ? J'étais avec mon compère Pedro de Fréquence Populaire en juillet au ce deuxième sommet des BRICS que nous avions couvert à Rio de Janeiro. De manière très intéressante, aucun média européen quasiment, français, personne, aucun commentaire, si ce n'est, ce n'est rien du tout, une réunion complètement secondaire de pauvres gens de pays en voie de développement ou de dictateurs. Bon, c'est ça à peu près le commentaire, ça ne représente rien, ça n'a aucune force. Par contre, il y en a un qui était très intrigué et intéressé, et pas très content, c'est un certain Donald Trump, qui a immédiatement tweeté, c'est une réunion de gens, les BRICS, qui s'organisent contre le dollar, contre l'hégémonie du dollar américain. Nous allons remettre ça d'équerre. Pression immédiate sur le Brésil. Soutien à Bolsonaro. Et c'est de là que partent le gros des sanctions, des guerres, des tarifs douaniers. Opération sur le Venezuela. Alors qu'il n'était pas dans les BRICS, mais il était quand même très proche. Il y avait un veto du Brésil pour qu'il rentre dans les BRICS. Et maintenant, offensive sur l'Iran. Si on regarde du point de vue impérial américain, ça a du sens. Parce que le Venezuela, grosse réserve de pétrole, même si elles sont sûrement exagérées, comme nous l'avait dit ici Nicolas Meillon, ils ne sont pas à 310 milliards de barils, mais même si elles sont à 30 milliards, c'est quand même très important. Puis bon, et ça compte, et la Chine, visiblement, comptait beaucoup dessus. Donc maintenant, c'est sous contrôle américain. Sans régime change, hein. Ils ont pris Maduro, mais tout le reste est resté. C'est comme l'a dit Donald Trump, ça...
Une véritable démocratie américaine.
It's oil. Mais il l'avait déjà fait dans les années 50. Il y a un dictateur qui était venu au Venezuela, il était contre les Américains, en fait. Bon, ils sont venus le voir, ils l'ont dit, écoute, tu règles tes affaires, tant que le pétrole passe par chez nous, tant qu'on décide où il va, ils ont signé oui, donc ils l'ont laissé tranquille. Bon. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont proposé, c'est ce que Donald Trump a proposé récemment au Mollah en Iran. Il leur a dit, on ne va pas faire de régime change, vous avez l'air très bien, parce que le régime change a échoué. À nouveau, vous êtes très bien, vous gérez l'Iran, ça nous, en fait, ça ne nous concerne pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est oil, le pétrole. Bon, il a une côté brutal de dire les choses, mais qui ont toujours été au cœur des États-Unis. La puissance américaine.
Puisque, permettez-moi une deuxième parenthèse. Donc, d'ailleurs, les Iraniens viennent d'expliquer que, contrairement à ce qu'avait promis Donald Trump, eux comptaient bien faire justement cette guerre du pétrole et donc ne faire en sorte que le détroit d'Ormuz devienne compliqué à traverser, etc. Donc, d'aujourd'hui.
Oui, c'est la déclaration du ministre des Affaires étrangères iranien. Et ils ne veulent pas de cesser le feu.
Voilà, c'est
vous
ça.
Vous avez déclenché la guerre,
C'est ça. Et Trump expliquait qu'il n'y avait pas de problème et que d'ailleurs les marchés tout de suite s'étaient rassurés, le pétrole était redescendu et les Iraniens ont expliqué non, pas du tout. En fait, le pétrole reste une arme de guerre et d'ailleurs nous allons faire en sorte d'empêcher les cours du pétrole de se calmer. Donc,
Mohammad Jawad Zarif. Voilà. La raison pour laquelle, bon, enfin, on va venir peut-être là-dessus plus tard, mais la raison pour laquelle les Iraniens font ça, c'est que les Iraniens veulent un arrêt des sanctions, qui leur a coûté très très cher, qui d'ailleurs était une des causes importantes des manifestations récentes en janvier en Iran, et ils veulent une compensation des pertes subies par la guerre. Bon, ce qui évidemment n'entre pas encore en ligne de compte pour les États-Unis. Mais on va y revenir. Ce que je veux dire, c'est que si les États-Unis, s'ils gagnaient la guerre, la partie, l'État profond, les néo-conservateurs américains gagnent la guerre en Iran. Gagnent la guerre, ça veut dire avoir le contrôle sur le pétrole et l'exportation du pétrole iranien. Et là, ils mettent un taquet très sévère aux BRICS. Parce que le pétrole et le gaz iranien, c'est quand même beaucoup de l'apport, c'est 50% hein, pour la Chine, c'est beaucoup de tout l'apport en Asie, c'est extrêmement important. Et c'est un clou mis dans l'alliance BRICS, parce que l'Iran fait partie des BRICS, et un certain Zbigniew Brzezinski, qui était l'un des grands théoriciens néoconservateurs américains, avait écrit dans Le Grand Échiquier, il faut affaiblir la Russie, voire la réduire, la découper en plusieurs parties, le levier c'est l'Ukraine. Et comme il n'était pas stupide, Brzezinski dit, si ça échoue, alors il faut surtout nous prémunir d'une alliance durable entre la Russie et la Chine, et surtout d'une alliance Russie-Iran-Chine. Donc cette guerre fait sens dans le cadre de la longue stratégie des non-conservateurs, et si effectivement ils gagnaient, parce que bon, on ne sait pas ce qui va advenir de cette guerre, on n'est qu'au 12e jour, je pense qu'elle sera longue, avec le Venezuela, plus l'exportation américaine, plus les pays du Golfe, plus l'Iran, les États-Unis continuent à dominer le monde. Donc, c'est ça l'objectif. Alors, c'est sûr que bon, du côté du Wisconsin ou de la Géorgie, ça agace un peu.
Alors, ça agace, et néanmoins, c'est bien cet impérium américain qui est en train de se mettre en place. Donald Trump n'a pas du tout l'impression, ne donne pas l'impression qu'il a envie d'y renoncer. Est-ce que la donne mondiale est véritablement en train de changer? Ou, au contraire, peut-on penser que, sous la pression interne, sous la nécessité en fait, de gagner ces élections de mi-mandat qui se rapprochent, Donald Trump va faire une de ces américanades où on recule en expliquant qu'on a gagné et un truc qui est vraiment très trumpien, on proclame la victoire au moment même où on concède la défaite?
C'est une possibilité. Vous savez que Donald Trump a un surnom, c'est Taco.
Oui.
Trump always chickens out. Donc, Trump s'enfuit
toujours une poule mouillée.
S'enfuit et toujours une poule mouillée. En même temps, il faut lui reconnaître qu'une qualité rare, c'est qu'en général, les présidents américains, quand ils commencent une guerre, s'entêtent à l'infini. On l'a vu avec l'Afghanistan. Il y en a commencé une qui, je ne sais pas pourquoi, complètement ignorée par nos journalistes. C'est la guerre contre les Houthis, qui sont un des proxys des Iraniens, donc des chiites du Yémen, de l'ouest du Yémen. en avril-mai, 6 semaines de guerre, 2 porte-avions, bombardier B2, bon, et aucun succès. Donc il s'est dit, bon, on plie les Gaules, de toute façon personne ne sait où il y mène. Tant qu'il a fait un sorte d'accord, vous ne tirez plus sur les bateaux américains, il n'a même pas inclus Israël, et 5 jours après la signature, il tirait à nouveau sur Israël. Bon, d'accord, chicken's out. On a réglé le problème. Donc oui, il pourrait faire ça, sauf que là, le problème, c'est qu'il s'est engagé dans... Quand vous rentrez dans une guerre, surtout ce genre de guerre-là, on sait comment on y entre, on ne sait pas comment on sort. Or là, le problème, c'est que la guerre est... On a fait cette hypothèse sur Fréquence Populaire. On est en fait déjà de facto dans une Troisième Guerre mondiale, même si elle est modérée compte tenu des armes nucléaires qu'ont les uns et les autres. C'est-à-dire que là, on a quasiment tous les pays du Golfe qui sont impliqués. Israël essaie d'impliquer la Turquie et l'Azerbaïdjan pour faire le boulot au sol, parce qu'il n'y a pas de régime change réussi, donc il faut bien que quelqu'un aille au sol. Donc les Kurdes, donc les Peshmerga d'Irak, plus les Azeris... avec l'attaque de false flag sur l'aéroport d'Azerbaïdjan, qu'ont dénoncé les Iraniens, essayer de bouger les Turcs. Israël est dans une situation difficile, et puis surtout, l'acteur principal, celui envers qui ils ont commencé la guerre, encore une fois, peu importe qui dirige, l'entité géopolitique Iran n'a pas envie de se rendre. N'a pas envie d'arrêter le combat. Et d'ailleurs, ça lui avait été reproché dans la guerre de 12 jours par plusieurs pays BRICS, plusieurs supporters d'Emola, y compris un John Mersheimer, qui est un géopoliticien américain. Il dit qu'il ne comprenait pas très bien pourquoi les Mollahs n'ont pas continué le conflit de 12 jours puisqu'ils avaient la main. Parce que c'est les Israéliens qui ont appelé les Américains parce qu'ils se trouvaient à court d'antimissiles contre les Iraniens. Mais les Iraniens ont joué le jeu, bon... Les Américains ont bombardé un jour, ils ont dit « Oh, c'est terrible, on va riposter ». Ils ont prévenu 24 heures avant qu'ils tiraient sur une base américaine. Bon, et puis voilà, hop, c'était enterré. Ils ont espéré encore une sortie par la négociation. Mais là, cette nouvelle attaque, plus un fait complètement nouveau en géopolitique, l'élimination d'un chef d'État. Encore une fois, personnellement, je n'ai pas d'amour spécifique pour les Mollahs, ni Khamenei, mais c'est le chef d'État de l'Iran. Ça ne s'est jamais vu d'éliminer un chef d'État comme ça. Là, c'est eux qui ne se rendent pas. Et s'ils ne se rendent pas et continuent à tirer sur les bases américaines et sur Israël, ce qu'ils ont sont visiblement très déterminés à faire, Donald ne peut pas sortir du conflit. Alors... Et là, il se retrouve pris les doigts dans un engrenage qui n'a pas l'air de lui plaire. Donc oui, il peut déclarer ce matin, oh, c'est fini, on a tout bombardé, on a tout cassé, on a gagné. Il avait déjà gagné la dernière fois, ils avaient tout détruit.
Et il avait gagné en juin 2025, il n'y avait plus d'armes nucléaires. Et là, il a déclaré hier qu'il fallait absolument y aller parce que, en fait, ils avaient l'arme nucléaire, donc qui visiblement n'était plus détruite. Voilà. Et aussi que l'Iran menaçait de prendre le contrôle du Moyen-Orient, voilà, ce qui avait échappé à tout le monde.
Jusqu'à cette guerre... C'était pas l'objectif. Mais là, le fait de taper les bases américaines qui ont été très très sévèrement atteintes. Enfin, on parle quand même de 5 radars majeurs, soit détruits, soit endommagés. Bon, comme c'est assez. Il y a un gros blackout sur l'information, sur la destruction. Mais bon, visiblement, il y a des soucis de ce point de vue-là. Il y a des tirs qui ont été faits, soit réels, soit sous faux drapeau. Sur les installations pétrolières et raffineries des pays du Golfe. J'ai perdu le fil de ma pensée. Donc, pardon, excusez-moi.
Non, je vous en prie, mais ça m'amène à une autre question.
Non, parce que la question, c'était le... Ah, zut.
C'était pour... vous avez commencé à expliquer, vous êtes parti de « on a éliminé un chef d'État », enfin Trump a éliminé un chef d'État, pour autant ils ne se rendent pas, il faut intervenir parce que
la domination de l'Iran
sur le Moyen-Orient.
Les pays du Golfe se retrouvent dans une situation très compliquée, c'est-à-dire ils ont accepté beaucoup de choses des pays du Golfe, des bases américaines, le fait qu'on contrôle en gros leur géopolitique, d'accepter tout un tas de choses, y compris quand Donald Trump fait sa tournée, de dire oui, on va financer des dizaines de milliards aux États-Unis, de rejoindre le Board of Peace. De se retrouver en fait pris dans un conflit, alors que le contrat qu'ils avaient avec les Américains, c'est justement d'être protégés de tout conflit. Or là, ils se retrouvent. Il y a peut-être des places comme Dubaï qui vont perdre complètement leur position de Suisse ou du Proche-Orient. Est-ce que les gens vont revenir? Est-ce que les entreprises vont revenir? Est-ce que c'est pas garanti. Le message qu'ils sont en train de donner les Iraniens, c'est tout État dans le Golfe qui aura une base américaine subira notre riposte. Donc, c'est un petit peu vouloir prendre le contrôle. D'autant que la volonté de certains néoconservateurs, comme en Russie, de disloquer l'Iran en plusieurs parties, eh bien, est en train de s'appliquer aux pays du Golfe, qui sont quand même des constructions géopolitiques assez instables, des monarchies assez instables, où la population nationale est très très faible, il y a énormément d'étrangers, que ce soit des expatriés occidentaux ou des travailleurs qui viennent de l'Asie ou de l'Afrique, qui sont largement majoritaires. Avec des frontières comme ça, là, où
coupé l'équerre
à l'anglo-saxonne, bon, qui n'ont pas beaucoup de sens en réalité, sont eux-mêmes composés de pas mal de populations chiites, comme à Bahreïn, qui on n'en a pas beaucoup montré ici, mais qui étaient très contents, ont salué les bombardements sur la base américaine, le port de la 5e flotte à Bahreïn. Il y a des populations chiites en Arabie Saoudite qui peuvent se soulever avec le soutien des chiites du Yémen. Ça peut vite devenir très, 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 très compliqué. Et on peut avoir. Il y a les chiites de Bassora en Irak. Si les Mollahs considèrent qu'on a un peu poussé le bouchon trop loin, enfin, pas nous, mais les Américains et les Israéliens, ils peuvent se dire, bon, bah, nous aussi, on va pousser le bouchon.
Voilà. Alors, les Israéliens, eux, sont en train de se concentrer sur le Liban et le Hezbollah, donc un autre des proxys iraniens. Et pendant ce temps-là, la France, et vous en parlez souvent dans vos émissions, donc sur Fréquence Populaire, la France a décidé de faire... corps avec non pas l'agression américaine, mais en tout cas avec les intérêts économiques mondiaux, avec cette idée de sécuriser le détroit d'Ormuz, avec d'ailleurs une sécurisation prudente, puisque ce que Emmanuel Macron a dit, tout en se propulsant sur le porte-avions Charles de Gaulle, c'est qu'une fois que la paix serait revenue, il participerait avec la France à une opération de sécurisation d'un détroit qui ne serait plus en guerre. Donc là, on est vraiment au maximum de ce que la France est capable de faire. Et quelles sont les conséquences pour la France, en fait, de ce conflit irano-israélo-américain?
Alors, on verra, elles peuvent être nombreuses. D'abord, une remarque. En dehors des déclarations un petit peu étranges d'Emmanuel Macron, c'est quand même, pour une fois, un marqueur de puissance de la France. Parce que l'Allemagne ne peut pas faire ça, la Pologne ne peut pas faire ça, personne ne peut déployer un porte-avions et peser internationalement. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? D'accord, c'est notre sujet, mais on peut le faire. Donc c'est important, parce qu'on est souvent dans un pays où on ne peut rien faire, c'est pas possible, on n'a pas les moyens, on n'a pas la force. Bon. C'est sûr qu'on n'a pas la capacité de régénérer nos forces, donc le déploiement il peut durer 8-10 semaines, après il va falloir rentrer, parce que, bon, pour tout un tas de raisons techniques et logistiques. Ce qu'a dit Emmanuel Macron est un peu étrange, hein, c'est un peu du Trump, donc c'est une posture défensive contre quoi? C'est pas très clair. Les États européens, en particulier l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, ont critiqué l'Iran pour ses attaques inconsidérées sur les pays du Golfe. Bon, c'est pas eux qui ont été attaqués en premier, hein. Donc c'est un peu étrange comme positionnement. L'aspect défensif, c'est pas sûr qu'il soit perçu de cette manière par les Iraniens. Ce que peut déclarer Emmanuel Macron, mais quel est l'effet de l'arrivée du Charles de Gaulle, qui pour le moment est au large de Chypre, c'est là où était Emmanuel Macron hier, donc en Méditerranée orientale. Si je comprends bien la position défensive, pour le moment du Charles de Gaulle va rester en Méditerranée orientale. Il ne va pas dans le détroit d'Ormuz.
Ben non. Mais c'est pour permettre la réouverture.
Et ce qui permet d'aller dans le détroit d'Ormuz, c'est le Gerald Ford. C'est le porte-avions qui était en défense d'Israël, puisque les avions servent aussi à abattre des missiles et des drones, et à participer à la défense globale d'Israël. Lui, il va dans le détroit d'Ormuz pour renforcer l'Abraham Lincoln, l'autre porte-avions américain, donc en position offensive. Encore une fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les mots-là, mais si vous êtes depuis Téhéran un bateau français qui vient remplacer un bateau américain pour renforcer l'offensive, vous l'intégrez dans le dispositif d'attaque contre votre pays. Donc on s'expose. Les Iraniens n'ont pas encore tiré leur meilleur missile. Donald Trump, là aussi, a dit « Tout est détruit, on a tout cassé, l'Israélien disparaît, ils n'ont plus de réserve. Bon. » leurs meilleurs missiles hypersoniques n'ont pas été tirés, donc notre porte-avions sera exposé. Et puis, même si les souvenirs avec l'Iran sont très douloureux pour la France, on pense à l'attentat rue de Rennes, le célèbre bâtiment de Félix Potin, mais là-bas, à l'époque, c'était Tati, avec énormément de victimes, ou différentes opérations d'assassinat, d'espionnage en France. On pense à nos parachutistes morts dans le bâtiment de Drakkar, à Beyrouth. Du point de vue iranien, la France est celle avec les États-Unis qui a poussé l'Irak à attaquer l'Iran entre 1980 et 1988, causant un bon demi-million de morts iraniens, 1,5 million de blessés, plus une guerre chimique. Ils ont une petite dent contre nous. Je ne serais pas surpris s'ils prenaient pour cible, puisqu'ils ont dit qu'ils prendraient pour cible tout soutien à l'offensive américaine. Donc, toutes les bases, tous les pays qui ont des bases américaines, ils l'ont fait. On rentre dans la catégorie de ce qu'il y a. On peut se retrouver en guerre. Voilà. Alors, on peut le comprendre du point de vue de la France et de l'OTAN, puisque Marc Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, a lui-même dit qu'il fallait soutenir les États-Unis. Alors bon, il est très très suivi de Donald Trump, mais j'ai l'impression que les pays européens, on se dise, il faut qu'on aide les Américains à régler leur compte au Mollah, parce que plus, si on gagne, bon, le problème de la pression sur les hydrocarbures est enlevé, et tout ira bien. Je vais faire un petit peu de publicité. Sur Fréquence Populaire, on a aussi un site qui est www.fpop.media, sans accent, qui est de l'écrit, et on a des contributeurs, dont Jacques Sapir. Et Jacques Sapir, hier, nous a fait un très très bon article sur les conséquences sur les marchés mondiaux, pays par pays, zone par zone, de la guerre. Donc c'est un article détaillé, si ça vous intéresse. C'est gratuit, hein. Il suffit de renseigner un email. Bon, si on veut nous aider, on peut, mais voilà, vous avez accès gratuitement, où il détaille les conséquences d'une guerre, si elle est courte, si elle dure 2 semaines, bon, celle-là, c'est fini, 2 semaines sont passées dans 2 jours, si elle dure 8 semaines, et si elle dure plusieurs mois, comme certains pensent déjà aux États-Unis jusqu'en septembre. Et là, la zone la plus touchée, devinez laquelle, c'est
l'Union européenne.
L'Union européenne, eh ben oui, parce que on se coupe du gaz et du pétrole russe. Si maintenant le Qatar a arrêté sa production de GNL, ça va devenir très très vite compliqué. De toute façon, vous avez vu, c'est plus 40% sur le prix du pétrole, plus 70% sur le prix du gaz. Il a fallu que Donald Trump fasse des claquettes pour faire tomber de $120 le baril qui était à 70 avant le conflit, hein, pour le faire tomber à 90. Mais bon, quand les Iraniens vont continuer 5-6 jours à tirer des missiles et des drones, ça va repartir en hausse. Et les Iraniens le savent. Ils savent que toute petite munition de 20 kg, de 50 kg qui passe, qui touche un pétrolier, un champ d'exploitation de gaz, de pétrole, c'est un énorme coup donné aux économies occidentales et surtout européennes, qui vont avoir beaucoup de mal à s'en remettre, sachant que nous sommes déjà en fait en récession, malgré le maquillage des statistiques, qu'on a des dettes, en particulier la France, complètement délirantes, et que nous sommes maintenant sous la pression de la Russie. Avec Poutine qui se tourne les pouces. Et qui...
Alors, il ne se contente pas de tourner les pouces. Il a même fait des propositions précises en expliquant qu'il était prêt à vendre du pétrole et du gaz.
Il y a 5 jours, il a dit « Oh, peut-être que je vais couper tout le GNL, toutes les livraisons de GNL à l'Europe. »
Oui, ben alors...
Et d'abord, il a dit « Hop, un petit taquet. » Puis après, « Mais si vous voulez, on peut, je peux vous vendre du pétrole et du gaz. » Sauf que vous imaginez bien que ça ne va pas arriver sans une petite compensation, sans conséquence. Par exemple, la levée des sanctions. Je voudrais bien voir Mme von der Leyen et les dirigeants européens prendre le chemin de Canossa ou des marchands de Calais à genoux en robe de bure avec les clés autour du cou et dire oh, « Pardon, donnez-nous un peu de pétrole et on retire les sanctions ». C'est une défaite colossale. Dans tous les cas de figure, ce n'est pas très bon. Hein. Soit c'est une défaite humiliante, et donc, évidemment, ira avec ça arrêter de soutenir l'Ukraine, nous arrêter d'envoyer de l'argent, puis on ira où on voudra, c'est-à-dire jusqu'au Dniepr, plus Odessa, pourquoi pas Kiev. Hein. C'est pas acceptable. Donc l'Union européenne s'est mise dans une situation où toutes les options sont mauvaises. Voilà la réalité. Et alors peut-être la France est parmi l'un des... Parce qu'on n'a pas complètement sabordé notre nucléaire, un des pays qui a encore un petit peu de moyens de compenser le choc. Mais ça s'annonce mal pour l'ensemble de l'économie mondiale, en particulier les pays européens. Et très étonnamment, ce qui montre que la stratégie est mal pensée du côté des pays occidentaux, c'est que pour le moment, quel est le pays qui en profite ? La Russie. Avec une position... vous imaginez quand même, ils avaient signé des accords, avec les Indiens avaient signé des accords, ils achetaient beaucoup de pétrole, pas cher, russe, qui revendaient aux Européens à plus de 20%, et les Américains leur ont dit non, vous arrêtez. Là maintenant, les Américains viennent d'autoriser les Indiens.
Oui, pour un mois.
Oui, bon, déjà, l'humiliation pour les Indiens, je pense qu'ils vont très très mal le digérer, que des anglo-saxons les autorisent à faire ceci ou pas cela, bon...
C'était déjà humiliant pour les Indiens, mais là, en plus, c'est surtout une espèce de constat d'échec de la politique américaine. Et je trouve que le signal envoyé aux Indiens de dire « on arrête les sanctions pour un mois alors que la guerre est censée être terminée demain » aussi est un peu légèrement contradictoire.
Exactement. Et bien plus les Indiens vont l'acheter à prix fort, hein, parce que les Russes ont dit « bah oui, maintenant c'est le prix du marché, les amis, vous ne vouliez plus l'accord des amis BRICS, ben, tant pis ». La Russie, l'année dernière, avait une perte sur son budget fédéral, avait un déficit de 2% du PIB. Donc elle rentrait dans les critères de Maastricht, c'est juste pour la blague. Mais là maintenant, c'est des gains colossaux. Hein. On parle de plus 40 à plus 100 milliards si la guerre se poursuit.
Cette guerre qui se poursuit, cet effet sur les marchés. Cet effet sur les marchés, ça devient un effet sur les prix. C'est un effet sur les prix à la pompe. Alors, le gouvernement n'a pas encore décidé de bloquer les prix. Florian Philippot rappelait ce matin que la France, dans les années 90, avait bloqué les prix. Donc pourquoi est-ce qu'on ne les bloque pas encore ? On est en train de nous dire qu'on va sans doute dépenser nos réserves stratégiques. Donc ouvrir les 4 mois de réserve stratégique qui permettraient de maintenir les prix à défaut de les bloquer. On est surtout en train de vérifier que la France, malgré cet arsenal nucléaire, qu'elle est peut-être en train de céder à l'Union européenne à petits pas, malgré cette puissance de projection dont vous avez souligné d'une part qu'elle existait, mais d'autre part qu'elle était limitée. Les militaires français disent qu'on a une armée échantillonnaire. On sait qu'on a, on n'a pas une réserve qui de munitions qui nous permettrait de tenir une guerre de plus de 2 semaines.
De haute intensité.
On sait aussi que pendant longtemps, les navires français patrouillaient en mer sans avoir de munitions dans leur cale, ce qui était quand même une farce absolument incroyable.
Mais ça, l'adversaire ne le sait
pas. Pardon ?
Je disais l'adversaire ne le sait pas toujours.
Bien sûr.
Il a un peu plus de facilité aujourd'hui, de moyens d'être renseigné.
Il n'y a que le renseignement français qui est au courant de tout et tous les autres sont incapables de pénétrer cette forteresse du silence qu'est la France. Et
surtout quand on a les serveurs de la DGSI qui sont... Et qui sont,
et bien, qui sont avec des hackers, avec des logiciels américains pour les faire tourner. Est-ce que on est en train d'assister à la fin du discours international de Macron ? Est-ce que l'Iran va être le moment où les gens vont se rendre compte quand même qu'il s'agit de beaucoup dans le vide et que ça n'aboutit à rien ? Déjà sur l'Ukraine, il a été obligé d'admettre que. Personne ne lui avait demandé son avis sur les pourparlers de paix. Là, sur l'Iran, il a expliqué que personne ne lui avait demandé son avis sur la manière dont la guerre allait se déclencher. Je suis allé vérifier, comme je le fais tous les mardis, l'agenda de l'Élysée, où il y a tous les coups de téléphone qui sont listés dans l'agenda officiel du président de la République, comme quoi il a appelé Donald Trump, il a appelé le président iranien, il a appelé le président libanais, il a appelé tout un tas de gens. Et donc, il y a tous les collègues. Mais à l'arrivée, les Français vont-ils se rendre compte que la France, en fait, ne pèse rien, ou qu'elle pèse peu, ou en tout cas qu'elle ne pèse pas le poids dont Macron l'accrédite ?
Alors, il y avait George Orwell disait que seuls les intellectuels pouvaient croire à des. Enfin, étaient en capacité de croire à des idées complètement saugrenues ou à la propagande la plus extrême. Pour les Français que je rencontre. Un peu partout, je crois que plus personne n'est dupe. Quand on sort du sérail médiatico-politique parisien, ce qui visiblement n'est pas votre cas.
Rassurez-moi, vous voulez dire que Radio Courtoisie ne fait pas partie du sérail médiatico-politique?
C'est un compliment, je crois.
Au moins sur cette question-là, personne ne croit en France que Emmanuel Macron représente de manière d'abord digne la France. Hein, plusieurs fois, il s'est quand même illustré dans des postures. Qui ne sont pas celles d'un président. Et puis, il a il gesticule beaucoup. Tout le monde le voit, quand même. Et puis, les Français, en vrai, que vous vous expliquiez ce qui se passe... la plupart des gens s'intéressent un peu à ce qui se passe dans le reste du monde, mais ils ne sont pas passionnés de géopolitique au point de... Qu'est-ce qui se passe réellement dans le Golfe, les gens, ou en Russie, ou en Ukraine, ou au Mozambique, ou peu importe, ce qui les gens vont intéresser, c'est concrètement, dans un contexte économique déjà difficile, où il y a peu d'emplois pour les jeunes, où
est-ce que je vais réussir à faire mon plein de courses, est-ce que je vais payer mon essence,
on n'est jamais revenu, est-ce que là, en plus, on va avoir... la douche froide du plein essence, mais pas que du plein essence, ceux qui se chauffent au fioul, ceux qui ont du gaz. Y a déjà, tous les ans, on a 2 millions de Français qui se chauffent pas. L'année dernière, c'était 16 l'hiver. Cette année, 16 millions de Français, c'est quand même délirant.
Et aussi,
la conséquence est globale. Parce que c'est ce que dit Jean Covici. On lui a posé une fois la question, oui, mais les hydrocarbures, le pétrole et le gaz, ce n'est que 3,5% du PIB. Certes, mais si vous enlevez ce 3,5%, les 96,5% s'effondrent totalement. C'est-à-dire que si le coût du transport du camion augmente, ce matin j'entendais sur une radio d'État des camionneurs, un entrepreneur qui dit par déplacement de camion, c'est plus 45 euros par jour. On n'a pas compensé parce qu'on ne pensait pas que ça arriverait. Donc les contrats ont déjà été négociés. Donc il va falloir qu'on rogne un peu partout. C'est déjà ric-rac.
Les agriculteurs ont des problèmes avec évidemment le fioul agricole, mais aussi les engrais.
C'est reporté ailleurs. Ça va être l'inflation. Oui, vous avez raison, les engrais. C'est quand même 35% des engrais mondiaux qui passent par là. Donc pour le moment, ils sont arrêtés. C'est-à-dire qu'il y aura des pressions... tout un tas de... ça sera pas la France, mais il y a des pressions dans certains pays du monde sur l'inflation, sur l'alimentation, donc des risques de famine. Quel autre gros producteur d'engrais, c'est la Russie. Donc bon, avoir un levier à nouveau colossal sur tout un tas de pays d'Afrique. Bon, encore une fois, c'est très étrange ce que fait l'Occident, je comprends pas très bien parce que c'était censé bloquer la Russie, mais bon, ça lui donne encore un avantage. Mais là, tout ça va se décaler sur les Français, sur les factures. Parce qu'à un moment donné, dans un mois, deux mois, trois mois, d'ailleurs même pas un mois, c'est maintenant, le diesel il est à 2 euros, les gens vont devoir payer. Et la posture de Macron ne les intéresse pas, leur problème c'est qu'on trouve une solution. Donc oui, on va sortir, de toute façon maintenant c'est décidé en fait, il n'y a pas d'autre choix, on va utiliser les réserves stratégiques, ce qu'il va falloir, mais si la guerre dure réellement longtemps, remplir ces réserves stratégiques à nouveau pour l'hiver va nous coûter bonbon, puisqu'il va falloir les payer au nouveau cours. Le problème va se poser dans 8 mois, 9 mois, au prochain hiver. Ça va être très très compliqué. Si la guerre perdure longtemps, et pour ça, Macron n'a pas de solution. Et l'option des pays de l'OTAN de faire du suivisme avec un Donald Trump, qui d'ailleurs... Alors, je fais un aparté, il est un peu plus en plus comme Joe Biden. Alors je ne sais pas s'il fait exprès, mais moi je commence à m'inquiéter. Alors, Joe Biden, il saluait les fleurs, on sait que maintenant il a passé 3 ans et demi de sa présidence à ne pas être vraiment là où il était. Mais là, on a un enfant quand même. On a quelqu'un où on a le président de la FIFA qui arrive dans son bureau, qui dit « Aucun champion, il n'y a que les champions de football et les présidents de la FIFA qui peuvent toucher le trophée de la Coupe du Monde. Et vous, parce que vous êtes un champion, vous pouvez le toucher ?» Donald Trump le touche, on dirait ma fille de 6 ans. Ou alors, c'est les gardes frontières américains qui disent « On vous a fait un badge de la police de je sais pas quoi en or. » Et elle prend. C'est inquiétant. Non, pour un bonhomme qui a...
Le fait que Donald Trump a l'air d'être saisi par une espèce de d'hubris où il a l'impression qu'il suffit d'affirmer que tout est admirable et que tout est grandiose et que tout est doré et donc que tout va bien, ça nous a tous frappés. À côté de ça...
Ce que je veux en dire, c'est que plutôt que de suivre continuellement les États-Unis dans leurs différents méandres et leurs folies des différents présidents, peut-être ce serait le temps de s'affirmer et peut-être pas de suivre bêtement. Peut-être ce serait l'occasion d'être gaullien, en fait.
Non, et est-ce que la France a d'une part les moyens de cette affirmation et surtout est-ce que la France a le goût de cette affirmation? Alors, quand je dis la France, c'est-à-dire...
Emmanuel Macron,
est-ce que Emmanuel Macron et ceux qui dirigent le pays ont le goût de cette affirmation gaullienne dont Macron se réclame tout en nous vantant une Europe nucléaire, tout en nous vantant une dissuasion européenne.
Oui. Comme vous savez, De Gaulle n'avait pas des ministres qui avaient fait des stages à Atlantic Council et chez les Young Leaders. Et De Gaulle ne recevait pas des pins de l'Atlantic Council qui étaient remis par le PDG de BlackRock. Hein, parce que, bon, c'est ce qui s'est passé quand même le 24 septembre dernier à New York, en marge. De l'Assemblée Générale de l'ONU. Je parle de Macron. Donc Macron n'a pas du tout une position gaullienne. Mais la position gaullienne, ça serait d'abord de... Les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Nos intérêts, c'est d'avoir, surtout si on est un petit peu en bisbille avec la Russie, c'est quand même le cas, d'avoir une garantie d'approvisionnement. Et donc de ne pas participer... ou de l'affirmer, on ne va pas participer à une guerre qui est complètement incontrôlée, qui va finir on ne sait pas comment, qui aura une crise économique, et pourquoi pas de notre côté, de négocier le passage de nos tankers. Parce que là, le détroit d'Ormuz n'est pas complètement fermé. Il y a des bateaux qui passent. Tous les bateaux BRICS et les bateaux chinois passent.
Et il y a des tankers d'ailleurs qui étaient censés faire route vers l'Europe et qui ont été rachetés en cours de navigation par le Japon, enfin au moins un. Ça nous a tous un peu surpris, c'est-à-dire qu'un tanker a décidé en cours de route, enfin celui qui avait armé le tanker et celui qui avait déjà vendu le pétrole a décidé de détourner vers un pays qui l'achetait plus fort.
Ça vous rappelle rien? Si, on voit pas les masques.
Les masques au moment du Covid.
Ah oui, si, tout à fait.
Nos ministres, sur le tarmac, un avion est arrivé, puis il est reparti alors qu'on l'avait payé. Eh oui, mais dans le besoin. Et il faut bien comprendre que le pays le plus touché dans cette affaire, c'est le Japon. 72% de ses apports en pétrole dépendent de ce qui arrive du tout est en détail dans l'article de Jacques Sapir, du Golfe. Et eux, si le problème n'est pas réglé dans les 8 mois, c'est une catastrophe totale. C'est-à-dire que ça s'arrête, le pays. Au Japon, on parle même de corps expéditionnaire. Il y a des discussions en ce moment, parce qu'il faut rétablir d'une manière et d'une autre, le flot de pétrole. Or, comme à cause des Américains et de la guerre en Ukraine, ils sont mis plus ou moins mal avec les Russes. D'ailleurs, ce qui est intéressant, on a une époque quand même avec Internet et les traducteurs. Vraiment, je dis aux gens, mais ouvrez, allez sur les journaux japonais, vous prenez la première page, bon, on ne comprend rien, vous faites copier-coller, vous le mettez dans ChatGPT ou dans un traducteur Google Translate, et vous sortirez le texte, bon, ce ne sera peut-être pas parfait, mais il faut vous aller comprendre le sens. Vous allez voir les préoccupations qu'ils ont, là, c'est l'angoisse. Donc ils sont en train de se dire, non, mais on va arrêter les histoires là, avec les Russes, hein, ils sont juste en face, il y a du pétrole, on va trouver une solution. Y compris faire la paix, parce qu'ils sont toujours pas en paix depuis la Deuxième Guerre mondiale à cause des îles Kouriles, et accepter que les Russes possèdent les îles Kouriles. Parce que ils sont vraiment conscients. Donc ce n'est pas du tout étonnant qu'ils aillent payer plus cher pour détourner un bateau et récupérer
ce qu'ils peuvent récupérer.
Voilà. Donc là, ça va être la guerre généralisée pour les ressources.
Georges Kouzmanovic, il nous reste juste une minute et donc le temps d'une question. Fréquence Populaire, donc votre média, va continuer à éclairer ce débat. Est-ce que vous avez un conseil à donner aux Français pour les 8 jours, 2 mois ou 8 mois à venir, indépendamment de lire l'excellent article de Jacques Sapir?
Je n'oserais pas paraître alarmiste, mais voilà, je ferais plutôt le plein maintenant.
Voilà, voilà, y compris le fuel à la maison.
Le fuel à la maison, peut-être un jerrycan supplémentaire, parce que ça risque d'augmenter. Pourquoi pas acheter un peu de réserve de nourriture. En Allemagne, il y a cette consigne d'avoir 3 semaines de réserve. Quand on parle de nourriture de réserve, c'est de la nourriture dure. Hein. C'est
des conserves, des céréales,
des pâtes, des riz. Bon, on ne sait jamais, on a déjà eu la surprise parce qu'on est à flux tendu. Ça aussi, tout le monde ne le sait pas, mais la Chine et la Russie se préparent à ce genre de choses depuis longtemps, parce que visiblement, ils ont des gens qui pensent que l'histoire peut être tragique. Ils ont 18 mois de réserve stratégique, y compris de nourriture. Nous, on n'a pas grand-chose. Donc, mieux vaut, voilà, peut-être se prémunir et puis réfléchir à, dans un an, il y a une élection 2027, enfin trouver un candidat ou une candidate qui a d'abord le souci de la France en premier et pas de faire plaisir à Bruxelles ou à Washington.
Ou à Moscou, la préférence nationale.
Ou qui que ce soit. En question géopolitique, oui, toujours.
Très bien.
Eh bien, merci mille fois, Georges Kuzmanovic, d'être venu sur Radio Courtoisie et longue vie à Fréquence Populaire, voilà, qui lui aussi fait partie de ces médias indépendants.
Merci à vous.